Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Une nuit, François marche dans les rues de son quartier. Il n'a pas sommeil. Tout d'un coup, lui dépasse une grande femme, mince, blonde. Elle porte un tailleur rouge, très moulant, des cheveux tombant sur ses épaules. ondule. Il la trouve très belle, la dépasse, n'ose pas. N'ose pas la regarder en se retournant. Alors il s'arrête et se laisse se dépasser. Il veut la suivre. Elle marche d'un bon pas régulier. Il la suit. Les rues sont désertes. Continue à la suivre comme ça. Elle ne se retourne pas. Au bout d'un moment, elle s'arrête, lui sourit, se retourne vers lui. Elle se retourne vers lui et ouvre la porte d'un vieil immeuble cossu bourgeois de 5 étages. Une fois qu'elle est entrée dans l'allée, il décide d'en faire longtemps. On verra bien ce que l'on verra. Allons-y. La porte n'était pas fermée. L'allée est belle, de marbre rose. Elle est près de l'ascenseur et attend. Il se met à côté d'elle. Elle regarde droit devant elle. Une fois que l'ascenseur est arrivé, ils entrent. Elle appuie sur l'étage 5e. Cette histoire l'excite. Il se demande ce qu'elle va faire. Quand elle sera arrivée devant la porte de son appartement, il se dit qu'elle doit savoir ce qu'il veut. Ils arrivent à l'étage. Ils sont sortis de l'ascenseur. Il la suit derrière elle. Il va vers la porte de droite. L'ouvre. Il est derrière elle. Il va savoir si oui ou non elle a ouvert la porte de son appartement et entrer. Laisser la porte ouverte. Il entre lui aussi et avec son pied ferme la porte. Elle ouvre une porte à double battant, éclaire et entre. Il reste dans l'encadrement de la porte. La pièce est vaste, salon meublé Louis XV. Elle est au milieu de la pièce, devant une table basse. Se retourne vers lui et lui demande : voulez-vous boire quelque chose ? Il s'approche d'elle et lui dit : oui. Un bourbon. Elle lui sourit et prend une bouteille. Un verre et le serre. Une fois que le verre est rempli, elle le lui tend. Merci. Et s'en sert un aussi. Ils boivent tous deux en silence. Puis elle lui dit, vous avez l'habitude de suivre les femmes comme ça? Il lui dit, pas souvent, mais lorsque je trouve une jolie femme, je peux m'empêcher de le faire. Et vous?
Moi quoi?
Il lui dit, vous, vous aimez être suivi? Elle lui fait, ça dépend l'aventure. Pas vous? Oui, moi aussi j'aime l'aventure. Elle pose son verre, lui aussi. Elle lui dit, allons nous asseoir. Elle le mène à un fauteuil. Elle s'assoit en face de lui. Elle lui demande, vous habitez le quartier?
Oui, tout à côté,
enfin presque, pas vraiment, à côté, disons un quart d'heure d'ici. Mais pour moi, qui aime beaucoup marcher,
vous vivez seul?
Elle lui dit,
oui, j'ai toujours vécu seul. Je suis orpheline.
Il lui fait, je suis navré.
Moi aussi.
Elle lui fait,
vous aussi?
Oui. Il la trouve très belle. Sa jupe est courte, montre des jambes parfaites.
Il lui demande, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Elle lui dit, je suis dans la surveillance, disons hôtesse d'accueil dans une assurance. Et vous?
Moi, je m'occupe de beaucoup de choses. Je suis dans les affaires.
Oh! Il lui demande, il n'y a pas de musique?
Elle lui dit, c'est un peu tard,
mais non. Il se lève, fait le tour de la pièce et voit une mini chaîne CD. Il demande,
je peux?
Elle lui fait, ma foi. Et il a mis un CD de musique très entraînante. Il se met à tournoyer tout autour de la pièce au rythme de la musique. Elle le voit et le trouve très gosse. Ça la fait rire. Il lui demande, pourquoi vous riez? Et il dit, parce que je croyais que vous étiez, je sais pas, vous faites si jeune. Je ne sais pas que vous étiez aussi jeune que ça. Il lui dit, ça vous gêne?
Mais non.
Il va vers elle et lui dit, venez danser. Elle se lève. Il la fait danser d'une façon endiablée. Il lui dit, j'adore danser. Pas vous? Elle est toute excitée et heureuse. Ils dansent pendant un quart d'heure. Puis il s'est arrêté, pose sa tête sur son épaule et lui dit, j'aimerais bien faire un petit câlin.
un petit câlin. Elle lui dit, ou bien vous alors? Il lui fait, j'aime bien les câlins. Elle est où votre chambre? Il lui dit, ben, viens. Il lui dit, de toute façon, en me laissant entrer, vous saviez pourquoi? Elle le mène à sa chambre, lui reste la tête sur son épaule. Elle ouvre la porte, éclaire. C'est une chambre blanche, meublée Louis XV. Il la lâche et plonge sur le lit, sur le dos, les bras écartés. Il lui dit, on est bien ici, viens. Elle s'approche. Il lui dit, déshabille-moi. Elle lui fait, quoi? Il lui dit, je suis ton bébé, tu me déshabilles? Tu n'aimes pas? Elle sourit, le trouve à croquer, se penche et le déshabille. Une demi-heure plus tard, ils sont allongés nus, tous les deux, sous les draps. La chambre est dans la pénombre. Juste les rayons de la lumière de la ville qui passent par les persiennes l'éclairent. Elle se soulève. Il a la tête de son côté, endormi. Sa tête repose sur son bras, le visage pur, les lèvres pulpeuses. Un pouce près de ses lèvres. Elle est émue, sourit en se disant que c'est un bébé, un vrai bébé. Et elle a fait l'amour avec un ange. En dormant, il se touche le nez. Ce geste l'émeut. Il reste un moment sans bouger, puis se réveille. Il la voit penchée sur lui. Tout d'un coup, il lui dit « Bonjour ». Il se penche son cou et lui demande « T'as bien dormi ?» Il lui fait « Oui, mais pas assez. Il est quelle heure ?» Elle regarde sa montre, 2h30. Il se soulève d'un bond et dit, déjà? Elle lui fait, tu veux t'en aller? Il lui dit, oui, je suis obligé. Demain matin, j'ai une chose à faire, une course. Il soupire, se lève. Il lui dit, bien, puisque tu veux t'en aller, tu pourras tout de même prendre une douche. Oui, ça va me réveiller. Et il dit, la salle de bain, c'est la première porte à droite en sortant de la chambre. Et il quitte la chambre. Elle le regarde s'en aller, nu. Il le trouve mignon. Entre dans la salle de bain pour prendre sa douche. Puis sort de la douche, s'essuie avec une serviette de bain crème. Juste avant qu'il ne sorte de la salle de bain, il voit à terre un tube de comprimé. Il se baisse pour le ramasser et le mettre sur le lavabo. Il le prend, se relève et pendant qu'il se monte, tiens, qu'est-ce que c'est ? Stylo-laine. Regarde sur le tube ce que c'est. Et là, il lit. Il lit que c'est un médicament pour stabiliser les cellules et que c'est pour les mutants. Mutants ? Il est effrayé. Je suis mutante ? Mais ce n'est pas possible. Je n'ai pas pu faire ça avec une mutante. Ce serait trop horrible. Réfléchissons. Il essaie de se rappeler comment ça s'est passé la nuit dernière. Tout semblait normal. Alors, oui, mais comment savoir que c'est une mutante ? Un mutant, c'est quelqu'un de vivant qui a muté, qui s'est transformé, mais toutes les espèces mutent. Nous mutons tous, toutes les espèces, et je peux moi-même muter. Oui, mais les mutantes, ça c'est une autre chose. Elles mutent en laboratoire, transforment sur le laboratoire qui transforme les cellules. C'est pas la même chose. Là, on ne peut pas dire que ce sont des êtres humains, puisqu'ils mutent dès leur naissance. Alors, c'est-à-dire que j'ai fait l'amour avec une chose comme une poupée gonflable, ou une bête. C'est dégoûtant. Regarde le tube, réfléchit, se dit, ce n'est peut-être pas à elle, oui. Il y a des domestiques mutants. Ça se fait beaucoup. Je vais le lui demander. Ouais, je vais le lui demander. Il sort de la salle de bain. Va dans la chambre. Il la retrouve. Elle est toujours allongée. Sous les draps. Elle lui dit, t'en as mis du temps. Il lui dit, oui. J'ai une chose à te demander. Ceci. Il lui montre le tube. Oui. Eh bien, est-ce que c'est toi qui prends ça? Elle lui répond, depuis très longtemps, depuis que je suis toute petite, même bébé. Et pourquoi? Elle lui dit, mon médecin me donne ça, c'est pour éviter que je tombe malade. Je suis très fragile. Il m'a dit que du point de vue intellectuel, j'étais parfaite et même mieux que beaucoup de personnes. Mais pour ce qui est du physique, j'étais bien plus fragile. Alors il me donne ça, c'est pour, disons, que mes cellules restent en forme. Il lui demande, et tes parents? Il lui dit, je les ai jamais connus. Il lui dit, je vois. Il lui demande, mais qu'est-ce que tu as? Il lui dit, ça me dégoûte. Il lui demande, quoi? Viens. Elle lui tend les bras. et veut l'attirer à lui, le prend de ses deux mains pour le mettre contre son corps. Ça le dégoûte, il résiste. Mais qu'as-tu ? Elle tend ses lèvres. Il en a le vertige. Alors d'un geste brusque de ses deux mains, il lui attrape la tête et la tape, la tape, la tape sur le haut du lit. La conne, la conne, la conne. Elle ne bouge plus, le visage fixe, du sang sur le bord des lèvres et sur le lit. Du sang derrière la tête. Il la lâche. Elle est morte. Il est essoufflé. Il se dit, j'ai tué une de nos tantes, ce n'est rien. Ce n'est pas un humain. C'est absolument rien. Bon, il faut que je m'en aille. Et en vitesse. Alors, il s'habille en vitesse. Et sort de l'appartement. Juste où il sort de l'appartement, il se trouve nez à nez avec deux policiers en uniforme. Il est surpris, un des policiers lui dit « Vous alliez partir ?»« Oui. » « Nous avons reçu un appel téléphonique d'un de vos voisins qui se plaint du bruit qui provient de chez vous. Et ceci depuis 23 heures. Alors nous sommes venus voir. » François lui dit, c'est fini. D'ailleurs, je m'apprête à m'en aller. Le policier, qui est un gros homme fort, cheveux gris, lui demande, vous êtes propriétaire ici? François lui dit, à dire vrai, votre carte. François, agacé, monte sa carte. Le policier la met sur l'écran portable. Votre pouce. François, mais ça pousse, le policier lui dit. Vous n'êtes pas d'ici? François lui dit. J'étais en visite, le policier lui demande. Et où est le propriétaire? François lui dit. Elle est partie. Le policier lui dit. Nous allons être obligés, c'est de visiter l'appartement. Nous ne savons pas pourquoi vous êtes entré ici. Et si vous avez volé ou autre. François lui dit. Mais c'est ridicule. Fouillez-moi et vous verrez bien que je n'ai rien. Le policier lui dit, nous allons le faire, il dit à son collègue, fouillez cet homme. C'est un gosse, on ne sait jamais avec les jeunes. Je suis pas si jeune que ça. Silence. Et voilà le pauvre François qu'on le fouille. Il est fouillé par la police. Il ne trouve rien. Il dit à l'autre, il a l'air bien innocent et jeune. L'autre lui dit, on ne sait jamais. Allez, on va voir l'appartement. Entrons. François est très gêné. Ils entrent. Ferme la porte. François les a suivis. François se dit, pour se donner du courage, que ce n'est qu'une mutante. Ils vont dans toutes les pièces. Ça semble en ordre. Dans le salon, il y a deux verres et une bouteille sur une table, mais rien. policier lui dit, tout semble en ordre, et que faisiez-vous ici? François lui dit gêné, mais j'ai rencontré une femme, elle m'a mené chez elle, et nous avons passé la soirée ensemble. Policier lui dit, je vois. Et il continue les recherches. Le policier demande, où est-elle? François lui dit, vous le saurez bien, assez vite. Le policier ouvre la porte de la chambre. Et là, il voit le corps de la pauvre jeune femme. Mon Dieu! François lui dit, ce n'était qu'une mutante? Le policier demande, c'est vous qui avez fait tout ça? Oui, mais ça n'a pas d'importance, une mutante. Et pourquoi? François lui dit, j'ai appris après le rapport, alors ça m'a dégoûté. Le policier s'approche du corps, le regarde et dit, on ne peut pas savoir si c'est une mutante. Ça avait été un robot, oui, mais ça. François lui dit, ben, je vais m'en aller, hein. Le policier le regarde, François lui dit, oui, puisque c'est une mutante, vous vous en chargez? Vous allez la mettre à la décharge? Le policier lui dit, et si ça n'en est pas une? Non, vous allez venir avec nous et nous vous lâcherons que lorsque nous serons, nous allons faire des analyses. Mais venez avec nous. François, énervé, suit les deux policiers qui sortent de l'appartement. Il est mené au commissariat. Là, on le met dans une cellule. Le policier lui dit, passerez la nuit ici. Après, nous verrons demain si c'est une mutante. La cellule est blanche, petite, avec un lit en métal accroché au mur. François s'allonge, furieux. Et se dit, tout ça pour une mutante. Les gens sont fous. François se dit qu'il n'a vraiment pas de chance. Que d'histoire pour une mutante. Si Judith l'apprend, elle va être furieuse. Et peut-être qu'elle ne voudra plus le voir. Il paraît que les femmes sont dégoûtées lorsqu'elles savent qu'un homme a couché avec une mutante. Pour elles, c'est comme si elles avaient fait ça avec une bête. Et ce flic, il cherche à faire du zèle. Il aurait bien pu prendre le corps, le faire brûler, prévenir par numéro vert le décès du mutant, et tout était fait. Et lui, il serait relâché. Et maintenant, il va falloir attendre demain. Demain matin, ils vont se voir sur l'ordinateur, tellement voir sur l'ordinateur qu'ils ont fait une bêtise. Et le relâcher. Le lendemain, il se réveille. Il fait grand jour dans la cellule. Bien sûr, il est tout courbaturé et se sent énervé. Une heure plus tard, on lui apporte son petit déjeuner. Et oui. Puis,
Un agent le mène dans le bureau du commissaire, qui se trouve au premier. Le bureau est une grande pièce, toute blanche, avec des meubles modernes en métal marine. Il y a derrière le bureau une grande fenêtre et avec des barreaux. Le commissaire est un homme grand, mince, cheveux châtains, 35 ans, costume gris-bleu. Il a fait asseoir en face du bureau. Après, il lui a demandé ses coordonnées, carte et pouce, qu'il ait regardé qui il était. Il lui dit, voilà, monsieur Ducourt, durant la matinée, nous avons analysé le cadavre. Oui, vous aviez raison, c'était bien une mutante de deuxième génération. Difficile à identifier, parce que, bien, presque parfaite, était spécialisée dans le service recherche et faisait de l'espionnage industriel pour un groupe très connu, dont nous tairons le nom. Nous avons prévenu le service mutant qui s'est occupé de tout. Vous êtes libre. Libre, monsieur Ducourt. Merci, monsieur le commissaire. Le commissaire trouve François très bien. Il a une certaine attirance pour lui. Et malgré lui, pourtant, il n'est pas attiré par les jeunes gens ni les hommes. Mais là, certaines personnes, certaines jeunes gens, comme François, ont une attirance qui fait même que les hétéros sont attirés par eux, malgré eux. C'est leur élégance, leur façon de se mouvoir, leur physique. François, la prochaine fois, faites attention aux personnes que vous fréquentez. Tuer un mutant, ce n'est pas grave. C'est comme tuer un animal. Il n'a pas le statut d'un homme, mais d'une chose qui vit et qui est programmée pour notre plaisir, était formée par nous pour être utile et agréable. Mais il faut faire attention, il existe, et surtout à Lyon, des groupes extrémistes, anards, verts et défense de la nature qui risqueraient de vous créer des ennuis parce que vous avez tué un mutant comme les animaux. Ils disent qu'ils ont le droit de vivre. Pour vous nuire, ils risqueraient même, c'est de vous tuer. Ils défendent les droits à la vie, mais tueraient pour cela. Pour eux, la vie d'un rat est plus importante que celle d'un homme. Alors faites attention et ne recommencez plus. D'ailleurs, on parle de plus en plus de défense des mutants et même de syndicats. La CFDT est prête à créer une cellule pour ça. Mais le groupe Franc-Blanc veille. François lui demande, et cette histoire qui vient de m'arriver, est-ce que ça risque de se savoir parce que je suis dans les affaires? Le commissaire lui dit, faites pas de soucis. Je n'ai même pas ouvert un dossier. Vous pensez, pour une mutante. Merci, monsieur le commissaire. Et François reprend sa vie. Personne ne sait cette regrettable histoire. Mais François rêve souvent à la femme et se voit faire l'amour avec elle. Mais dans son rêve, il est pris en elle, des dents métalliques. Les à l'intérieur d'elle, et c'est lui qui saigne.
banque a toujours confiance en lui. Il fait quelques téléfilms, genre série famille à la française, avec des actions nulles, avec des acteurs nuls et sous-payés. Mais c'est bon pour la télévision, pour l'après-midi. Il arrive aussi à trouver des propriétés achetées, ou plutôt à prendre, grâce à Bernadette. Ces ampoules qui ralentissent le vieillissement marchent bien. Des bruits courts que le président de la République française, Marc, en prend. Ce qui fait une pub terrible, parce qu'il descend les escaliers 4 à 4 et sort de l'avion en courant. François va à Lyon pour ses affaires. Il veut prospecter pour des terrains et voir les studios de cinéma qui sont à Gerland, sur les bords du Rhône. Il y va en train. Ça lui fait tout drôle d'aller dans cette ville. Pourtant, il y est déjà retourné depuis son départ. À chaque fois qu'il y retourne, ça lui donne le cafard. Un cafard nostalgique. Arrivé à Lyon, il prend un taxi pour aller à l'hôtel Royal Place Bellecour. Je n'en vais pas vous décrire Lyon, parce que je vous l'ai fait des centaines de fois dans cette histoire, Violence et Crépuscule, et dans beaucoup d'autres. Il est resté le même, en ruine, des mendiants, des saletés, le sang, etc., etc. François, à l'hôtel Royal, il a une jolie chambre, Louis XV. La fenêtre donne sur la place qui est devenue un vieux bidonville. Vieux parce que ça fait des années, peut-être des décennies et des décennies, qu'il y a un bidonville et que les gens on vieillit, la population a vieilli. Et leurs cabanes aussi ont vieilli. En plus de la santé, ça fait vieux, très vieux. Il reste une semaine dans cette ville pour visiter les quartiers où il y a des terrains, va voir les studios de cinéma. Va jusqu'à Oulin voir le château, mais on lui dit qu'il est déjà à Franc-Blanc. Avant de quitter cette ville, le lendemain matin, après avoir vu quelques propriétés et fait quelques cartes pour vendre des choses, il décide et de revoir les lieux de son enfance. Il ne sait pas pourquoi, mais il a envie de revoir où il a vécu. Il va donc à pied la place Bellecour, c'est-à-dire où est son hôtel, jusqu'à la rue de la Grande Côte, en passant par la rue de la République, qui est devenu le marché des voleurs. Après une demi-heure de marche, il arrive dans son ancien quartier. Il voit avec émotion qu'il n'a pas changé. Les rues lépreuses, l'odeur, la saleté, les gens sales. Rien n'a changé. Il va jusqu'à la radio de son père, qui est toujours là. Il y a des tas d'affiches collées sur la porte, la vitre. Elles semblent toujours aussi sales et délabrées. François va vers la rue de la Grande Côte, sa rue, étroite, immeuble en ruine, avec la chaussée, du pavé, façade de quelques rares magasins, fermés, ils sont tous fermés, abandonnés, les vitrines défoncées, pleines d'affiches, de n'importe quoi sur les façades, des graffitis de partout. Seul reste ouvert le vieux bistrot où allait son père, vieux machin d'une autre époque. Petit, sombre. Il y a des vieux dedans qui sirotent. Il y a aussi une épicerie pourrie qui est ouverte. Il revoit la façade de son immeuble. Il est encore debout, mais plus délabré. François, le corps gros, les larmes aux yeux, il ne sait pas pourquoi, pousse la porte en bois. Avec ses mains, elle n'était pas fermée. L'allée est sombre, une ampoule au plafond, à terre, des papiers, des paquets de sale poubelle en vrac. Les boîtes aux lettres sont défoncées. Impossible de voir les noms. François s'apprête à monter les escaliers pour voir. Il a le corps tremblant. Lorsqu'il voit qu'il descend en courant un petit garçon dans les 8 ans, mince, blond, les cheveux bouclés, avec un short marron en loques. Pieds nus. François le voyant apparaître, le corps gros, ça lui rappelle ce qu'il était, comme il était. L'enfant passe devant lui et voit qu'il a pleuré. Comme lui, sûrement, lorsqu'il avait son âge. Nous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.